Ô notre Dieu, toi qui es notre Père, tu sais pourquoi nous sommes réunis ce soir. Et nous voudrions éprouver encore une fois l'immensité de ton amour et connaître ce que ta grâce veut nous apporter dans ce monde où nous devons vivre en étranger, en voyageur. Et nous voudrions que tu nous montres comment nous pouvons avoir la force de marcher en vainqueur. Et pour vaincre, qu'il en soit ainsi par ton esprit, que nos cœurs s'ouvrent et que ta bonté se manifeste au milieu de nous ce soir, par des âmes touchées et sauvées. Amen. Voyez les enfants, la vérité sort de leur bouche. Mes amis, ce matin, après le culte d'adoration, je me suis borné à vous dire que le thème de ce camp était une parole de qui ? De Jésus. Et nous l'avons trouvé dans le chapitre 12 de Matthieu au verset 42. Et pourtant, l'histoire de Salomon se trouve non pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Et ceux qui étudient la Bible, comme nous allons le faire encore ce soir, savent que ce livre nous parle, savez-vous combien de fois de Salomon? On vous a dit combien de fois le cœur bat? Eh bien, l'histoire de Salomon nous est donnée avec beaucoup de détails, et il y a 300 fois dans l'Écriture la mention de Salomon. Alors vous comprenez bien que nous ne pourrons pas étudier tous les passages qui nous parlent de Salomon, mais nous nous mettrons à l'écoute de la parole de Dieu. Qui était Salomon? C'était un des trois rois dont l'Écriture nous dit qu'ils ont régné pendant 40 ans chacun, ce qui fait une période de 120 ans. Quel a été le premier roi qui a régné 40 ans sur tout Israël? Comment s'appelait-il? Saül. Mais ce que je voudrais vous dire, parce que c'était sur le pamphlet, vous devez prendre vos Bibles quand vous venez à une étude biblique. Hein? Parce que m'écouter, ça m'intéresse pas que vous m'écoutiez. Je voudrais que vous puissiez contrôler que ce que nous vous disons est l'expression de la parole de Dieu. Alors, mes amis, pour la prochaine fois, vous prendrez vos Bibles. Le premier roi qui a régné pendant 40 ans sur Israël s'appelait comment? Saül. Et que veut dire Saül? Saül veut dire demander. Qui est-ce qui a demandé un roi? C'est Israël. Ils voulaient un roi. Et alors, ils ont eu ce roi. Mais qui était le roi d'Israël avant Saül. C'était le Seigneur lui-même. Et il a voulu leur montrer qu'au fond, en demandant un roi, ce peuple dont il s'était tant occupé, qu'il avait délivré du pays d'Égypte, eh bien, il repoussait Dieu lui-même en demandant un roi. Alors, vous pourrez lire et méditer l'histoire de ce premier roi, Saül, qui est mort. De quelle mort? Un suicide. Il s'est suicidé sur la montagne de Gilboa que j'ai vue plusieurs fois. Il est tombé sur son épée parce qu'il avait peur des archers et il ne voulait pas tomber d'une flèche et il s'est jeté sur son épée parce que son serviteur qui était à côté de lui n'a pas voulu le transpercer parce qu'il ne voulait pas porter la main sur un roi. On ne tue pas. Alors il n'a pas voulu tuer Saül et Saül s'est suicidé sur la montagne de Gilboa. Et quel a été le second roi qui a régné sur tout Israël? C'est le roi David. Et que veut dire David? Si Saül veut dire demander, c'était le peuple qui avait demandé le roi, David veut dire bien-aimé. Et de ce David, nous savons, nous apprenons que c'est Dieu qui l'avait choisi. Il avait choisi David. Et je vous lis juste un texte pour vous montrer comment Dieu peut nous voir et tout savoir de nous. Dans le deuxième livre de Samuel, dans le premier livre. Si vous aviez vos bibles, vous auriez déjà trouvé. Le chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, jusque à quand porteras-tu le deuil sur Saül? Donc Saül était mort, suicidé. Moi, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Ça, c'est le choix de Dieu. Tandis que Saül, ça avait été le choix des hommes. Et qu'est-ce qui caractérisait Saül, quand on le voyait, il avait une tête de plus que les autres, plus haute que les autres. Il était très grand et il était beau aussi. Et on a voulu nommer ce roi-là parce que on a regardé les signes extérieur. David, lui, l'Éternel l'avait vu et il l'avait choisi. J'ai vu un roi pour moi parmi ses fils. Bon. Alors, à vous d'étudier comment David est devenu roi. Et alors, le troisième roi dont il fera question, c'est donc Salomon. Alors, je vais vous raconter simplement certaines choses de Salomon. Pour qu'il y ait un enfant, qu'est-ce qu'il faut? Un père et une mère. Alors, on va se pencher d'abord sur ses parents, puisque c'est un temps familial. Quels étaient les parents de Salomon? Un père exceptionnel, en tout cas un père choisi par Dieu, mais on verra que ce père a eu de grands manquements, et puis sa mère également. Et pourtant, Dieu s'est occupé de Salomon, qui veut dire pacifique. Saül s'est demandé, David s'est bien aimé, et Salomon pacifique. Un homme de paix. Mais je voudrais que vous puissiez situer cette naissance de Salomon. Et alors, j'aimerais que vous lisiez, vous aurez du temps, je pense, dans le temps, que vous lisiez ces chapitres au sujet de David et de Salomon. Je prends tout d'abord David. Ce roi qui deviendra le père de Salomon. Chapitre 11 du deuxième livre de Samuel. Il y avait une guerre contre Israël. Et puis, à un moment donné, David avait risqué d'être tué, et ses officiers lui avaient dit, maintenant tu ne sortiras plus avec nous, parce que nous ne voulons pas que la lampe de l'Éternel s'éteigne. C'est-à-dire, ils ne voulaient pas qu'il meure. Et David était un guerrier très fort. Quand on vous parle de David, à qui pensez-vous? Automatiquement. À Goliath, hein? Vous l'identifiez avec Goliath, et il a tué Goliath. Mais ce David, on l'a mis un peu de côté pour que lui sauver la vie. Et alors, verset 1er du chapitre 11 du deuxième livre de Samuel, il est dit qu'après ces événements, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites pour assiéger Rabba. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté à Jérusalem. Et c'est là que ça a commencé. Et je voudrais simplement souligner que pour vous, quand vous risquez de tomber dans un péché, c'est que vous n'êtes pas à votre place. Dans ce monde, souvenez-vous toujours de cela. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que c'est là que tu me veux? Mes amis pourraient me demander de faire ceci ou de faire cela, mais c'est là la pensée du Seigneur. David n'était pas à sa place. Il est resté à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un soir, qu'est-ce qu'on fait le soir d'habitude? Quand on est fatigué, on va coucher. Hein, on dort. Un soir, David se leva de sa couche. S'il avait été à la camp, à la guerre, il n'aurait pas été sur sa couche. Hein, il aurait été occupé. Mais non, il pense qu'il doit se reposer. Alors il se repose. Mais le soir, comme il s'est reposé dans la journée, il ne se sent pas fatigué. Alors il se lève de sa couche. Faites attention à ça. Et comme il se promenait sur le toit, oh, une bonne promenade, au frais, sur la maison royale, du toit, il a aperçu quoi? Une femme qui se baignait et qui était laide. C'est ça votre version révisée? Elle était belle. S'il avait été avec Joab, s'il avait été à la guerre, il n'aurait pas eu cette tentation. Alors, il la regarde. Et non seulement il la regarde, mais David, qui est roi, envoya prendre des informations sur la femme. Il veut s'informer sur cette femme. Elle est belle. Il la veut dans son harem. Alors il demande des informations. Et qu'est-ce qu'on lui dit? C'est Bathsheba, fille d'Élam, femme d'Uri, le Hittite. Et qui était Uri? Un officier de David. Un de ses grands officiers sur lequel il pouvait compter. Alors il est renseigné que cette femme est une femme mariée. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est ça le père de Salomon. On lui dit, c'est Bathsheba, femme d'Élam, femme d'Uri, le Hittite. David envoya des messagers pour la chercher. Il la veut. Elle vint vers lui, mais c'est le roi qui la demande. Elle ne peut pas faire autrement. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est très moderne. Et il coucha avec elle. Alors qu'elle se purifiait justement de son impureté. Elle s'était baignée. Puis alors, elle est retournée dans sa maison. David a été satisfait. Est-ce qu'il avait le droit de faire ça? Il a couché avec qui? Une femme mariée. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pensez que personne ne le saurait. Cette femme devint enceinte. Pourquoi? Qui est-ce qui permet qu'on soit enceinte? C'est Dieu. Si vous lisez la Bible, aucune femme n'est enceinte si Dieu ne le veut pas. Cette femme devint enceinte. Vous avez cela dans Ésaïe. Que je viens de vous affirmer que c'est Dieu qui préside à la naissance. Ésaïe 66. Le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais enfanter. Empêcherai-je de naître, dit ton Dieu? Ce sont des versets qui ne doivent pas être dans la Bible seulement, mais dans nos cœurs. Puisqu'on nous a parlé du cœur, il faut que ces paroles soient dans nos cœurs. et qu'elle ait une autorité sur nos cœurs. Donc la femme est retournée à la maison, je reviens au chapitre 11, et puis elle fait dire à David, je suis enceinte. Alors voilà les complications pour David, qui est pourtant un homme de Dieu. David se dit, qu'est-ce que je peux faire? Son mari est avec Joab. Alors je fais venir Joab pour apporter des nouvelles. Et puis, son mari étant là, il va coucher avec sa femme, puisqu'il est en permission. Et alors, tout s'arrangera. On croira que c'est son fils. Voilà ce qu'a pensé David. Vous savez ce qu'on peut penser, chers amis? La pensée, ça. Alors David envoya dire à Joab, son officier, « Envoie-moi Uri le Hittite. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison, lave tes pieds. Et Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent de roi. Mais Uri, au lieu d'aller coucher avec sa femme, il se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur, et il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David en lui disant, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Alors que va faire David? Ça marche pas ce qu'il essaye de faire pour camoufler sa faute. Alors David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répond à David, l'arche de l'Éternel, ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes, des huttes, mon seigneur Joab et ses serviteurs campent en race campagne, et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et pour boire, et pour coucher avec ma femme, ça se fait pas. Aussi vrai que tu es vivant, toi-même, je ne ferai pas une chose pareille. Vous rendez-vous compte? Alors, quand David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, et je te renverrai. Alors Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. Et David l'invita à manger et à boire. Vous savez, dans notre préparation, on a parlé les jours précédents que nous devons faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, vous devez le faire pour le Seigneur, mais est-ce que c'est dans vos cœurs, ça? Vous êtes dans le monde. Mais est-ce que ces paroles, cet exemple de David, est dans votre cœur? Je peux vous dire que c'est vrai, que ça nous garde, quand la parole de Dieu n'est plus dans la Bible, mais dans nos cœurs, dans nos vies. On n'a pas besoin de piquer un verset pour être encouragé. Elle nous conduit, elle nous révèle ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Mais si vous n'avez pas cette parole dans vos cœurs, vous tombez. Et regardez David, hein, pourtant un homme que l'Éternel aimait. Alors, deuxième jour, verset 13, David invita Uri à manger et à boire. en sa présence. Et tout ce qu'il fait pour être sûr d'être vainqueur, il l'énivra. On le fait boire. Et on s'appelle David. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec ses serviteurs, les serviteurs de son seigneur, mais il ne descendit pas dans la maison. Au matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par l'intermédiaire du roi. Donc, on voit un homme qui essaye de s'en sortir. Il a essayé de faire venir Uri pour qu'on attribue le fait que sa femme était enceinte, qu'on l'attribue au mari. Puis voilà que ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à devenir, quoi? Criminel. Voilà ce qui se passe dans nos cœurs. Au matin, David écrit une lettre à Joab. Elle envoya, et vous voyez, par l'intermédiaire d'Uri, il écrivait dans cette lettre, placer Uri à la pointe du combat, le plus violent, retirez-vous en arrière de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. On arrive alors que on a une bonne éducation, qu'on se fait aimer de Dieu, on arrive à une chose pareille. Alors Joab, en observant la ville, plaça Uri en un endroit où il savait qu'il y avait des hommes vaillants. Les hommes de la ville firent une sortie, se battirent contre Joab, et il tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David et Uri, le Hittite mourut aussi. Joab envoya un rapport à David, sur tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, si la fureur du roi s'élève et qu'il te dise pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre, ne savez-vous pas qu'on tire du haut de la muraille, qui a tué Abimelech, fils de Yeroubel, n'est-ce pas une femme qui lui a lancé du haut de la muraille un morceau d'une meule de moulin, et n'est-il pas mort à Thébet? Pourquoi avez-vous approché de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri est mort. Il est mort. Alors le messager partit, il fait son rapport à David, surtout ce pourquoi Joab l'avait envoyé. Et le messager dit à David, ces hommes ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans la campagne et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur tes serviteurs, et il en tomba parmi tes serviteurs du roi, et ton serviteur, Uri, le Hittite, est mort aussi. Alors David dit au messager, tu parleras ainsi à Joab, ne sois pas peiné de cette affaire. Vous rendez-vous compte? On dit qu'on est au Seigneur, qu'on marche avec le Seigneur, puis on a des pensées pareilles dans notre cœur. Si la parole ne nous transforme pas, voyez-vous, on est à côté de la plaque. Ne sois pas peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Attaque vigoureusement la ville et renverse-la, et toi fortifie-toi. Alors la femme d'Uri apprend que son mari est mort. Et qu'est-ce qu'elle est maintenant? Veuve. Elle accomplit les rites funèbres pour son époux. Elle l'a pourtant trompé, mais il est mort maintenant. Alors, ont fait un service funèbre, et elle peut pleurer. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Quel bon roi! Voilà une pauvre veuve qui aura des besoins, et voilà David qui la reçoit dans sa maison. Et elle devint sa femme. Elle lui enfanta un fils. Ce fils, dont elle était enceinte. Puis alors, quelle phrase est-ce que vous lisez? Vous ne pouvez pas le lire, parce que vous n'avez pas vos bibles. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Cette histoire, vous devez l'avoir dans votre cœur pour traverser ce monde. Vous me direz, mais on ne risque plus rien quand on est vieux. Vous allez voir justement ce qui est arrivé à Salomon. Il a eu pour père ce David. Ce que David avait fait plus à l'Éternel. Déplut à l'Éternel. Hein. Heureusement que vous réagissez. Maintenant, voulez-vous savoir quand même l'état dans lequel se trouvait David? Le péché. Prenez 2 Samuel 12, verset 26. Joab, qui attaquait Rabba, les Ammonites, s'empara de la cité royale. Il envoya des messagers à David pour lui dire, j'ai attaqué Rabba, je me suis déjà emparé de la ville des eaux, rassemble maintenant le reste du peuple, campe devant la ville et empare-toi d'elle de peur que je m'en empare moi-même et que mon nom n'y soit proclamé. Alors David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabba et l'attaqua et s'en empara. Il prit la couronne de la tête de son roi, elle pesait un talent d'or, et était garnie d'une pierre précieuse. On la mit sur la tête de David, c'est beau, hein, qui emporta de la ville un grand butin. Quant au peuple qui s'y trouvait, il le fit sortir, et il les affecta aux scies, aux heures, aux herses de fer et aux haches de fer, et il les condamna aux moules à briques. Ce qui a fait dire que qui est-ce qui avait inventé les fours crématoires, c'est un juif. Qui? David. Il a fait des choses affreuses. Il n'y a pas qu'un péché d'adultère, mais quand on est loin du Seigneur, on peut s'abaisser à des choses affreuses. Il traita de même toutes les villes d'Ammonites, puis David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Il faut connaître ces choses-là pour savoir pourquoi Dieu lui dit, c'est pas toi qui bâtiras ma maison. Pourquoi? Parce que tu as été un homme de sang. Tu as été un homme de sang. Et vous voyez, quand on est dans le péché, c'est pas un péché seul, mais c'est tout un esprit de méchanceté aussi qui nous domine. Mais maintenant, je reviens au chapitre 12. L'Éternel envoya Nathan vers David. Donc, il est marié, il a eu un enfant. Nathan vint à lui et lui dit, et il lui raconte une petite parabole. Il y avait dans une même ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait du petit et du gros bétail en très grande quantité. Le pauvre n'avait rien du tout, sinon une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui, avec ses fils, elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait dans son sein, elle était pour lui comme une fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche ménagea son petit et son gros bétail pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui. Il prit la brebis du pauvre et la prêta pour l'homme qui était arrivé chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan, « L'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite quoi ? La mort. Et il rendra au quadruple la brebis pour avoir commis cette action et pour avoir agi sans ménagement. » Donc il sait encore juger les autres. Verset 7. « Alors Nathan dit à David, cette parole terrible, tu es cet homme-là. » Rendez-vous compte. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël. C'est moi qui t'ai délivré de la main de Saül, parce que si vous lisez l'histoire de Saül, vous verrez que Saül a toujours voulu tuer David. Mais Dieu l'avait épargné. Je t'ai donné la maison de ton Seigneur. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton Seigneur. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela était trop peu, j'y ajouterai encore. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Hittite, donc Dieu sait tout ça. Tu as pris sa femme pour en faire sa femme, c'est ce qu'on fait maintenant aujourd'hui. Et lui, tu l'as tué par l'épée des Ammonites. Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Voilà ce que nous dit la parole aujourd'hui. Et si elle a autorité, elle nous fait rentrer en nous-mêmes. Ainsi parle l'Éternel, je vais susciter un malheur contre toi du sein de ta famille, et c'est arrivé, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à l'un de tes proches, qui était un de ses fils, qui couchera avec elle à la vue du soleil. Car tu as agi en secret. Ça, c'est un des versets qui m'a le plus gardé dans ma vie de 83 ans. Ce que tu as agi en secret. Tu as agi en secret. Moi, je le ferai en face de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Il a reconnu. Enfin, il a reconnu, j'ai péché. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras pas. On va apprendre à connaître la grâce de Dieu, son pardon. Et il lui dit, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras pas. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. L'enfant était né. Puis Nathan s'en alla dans sa maison, le prophète. L'Éternel frappa l'enfant. Alors que fait David? Il frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il se mit à dépérir. David implora Dieu pour le garçon, et il entreprit de jeûner. Quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre. Mais il ne voulut pas, et il ne prit pas de nourriture avec eux. Or, le septième jour, qu'est-ce qui est arrivé? L'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car ils disaient ceci, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écouté, comment oserons-nous lui dire l'enfant est mort? Il fera un malheur. David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Et il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Ils répondirent, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava et se parfuma, changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Et il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie ce que tu fais? Pour l'enfant vivant, tu jeûnais, tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait, encore je jeûnais, je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? Moi, j'irai vers lui, mais lui ne reviendra pas vers moi. Et alors, qu'est-ce que vous lisez après? David consola sa femme Bathsheba. Il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle accoucha d'un fils qu'elle appela Salomon. Et ce Salomon, qu'est-ce qui est arrivé? Il fut aimé de l'Éternel. David le remit entre les mains du prophète Nathan. Il a bien compris que lui n'avait pas marché d'une façon claire. Et alors, on lui donna le nom de Yedidia à cause de l'Éternel. Yedidia veut dire chéri. Alors, mes amis, nous lisons maintenant le psaume qu'on a cité, le psaume 32e, pour vous montrer ce qui se passait, au fond, dans le cœur de David. Heureux celui dont la transgression est enlevée, quand il a su que Dieu lui pardonnait, dont le péché est pardonné. Heureux l'homme que l'Éternel, à qui l'Éternel ne compte plus sa faute, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, et c'est tant qu'il se taisait qu'il commettait tous ses péchés, mes os se consumaient, donc il était malheureux. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Quand on n'est pas en règle avec le Seigneur, quand on se laisse habiter par des pensées qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur, on est malheureux. Jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à ce qu'on lui fasse connaître mon péché, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute, et j'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Et dans le psaume que vous avez cité, le 51, on lit encore que David disait à Dieu, « Ô Dieu, fais-moi grâce selon ta bienveillance, selon ta grande compassion, efface mes crimes, lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes crimes et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait le mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans la faute, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu prends plaisir à la vérité dans l'homme intérieur, au plus secret de moi-même. Fais-moi connaître la sagesse, purifie-moi avec de l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi la félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut. Est-ce que... Est-ce que David avait perdu son salut?
Non.
Malgré toutes ses fautes?
Non.
Non, il n'avait pas perdu son salut. Il dit, ce qu'il avait perdu, c'était
la joie.
La joie. Mais si j'ai lu cela ce soir, c'est parce que je voudrais que vous sachiez qu'en nous, il n'y a absolument rien de bien. Et que quand on en arrive au baptême et qu'on dit « je renonce à ma vie », c'est vraiment la délivrance. Et après, on peut enseigner. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. Et ma langue acclamera ta justice. Nous demandons à Dieu que ce camp soit un camp où vous ayez entendu la parole, mais d'une façon que cette parole reste dans vos cœurs, et que ce soit impossible pour vous d'oublier cela. Vous vivez dans un monde où on n'entend que parler de péché. Ce n'est pas le péché, non, on ne parle plus du péché, mais on fait n'importe quoi. On nie le péché, on nie la culpabilité. On dit que nous ne ferions pas ça, mais vous êtes capable de le faire. Et j'ai pris David justement pour vous montrer que c'était pourtant un homme choisi par le Seigneur. Et il était capable d'aller si bas. Et je voudrais que dans ce camp, nous passions tous par cette conviction de péché pour que nous puissions savoir après ce que c'est que la grâce. Et pour terminer, je vous dis simplement que nous allons le voir. Il y a deux récits au sujet de Salomon. Un Salomon qui a manqué, fils de David, et puis un autre où on ne parle que de sa sagesse. Et où on ne dit rien de ses fautes. Et ce récit, qui est double, donc un se trouve dans Samuel, dans les rois, et l'autre se trouve dans les chroniques. Dans le récit qui nous parle de Salomon, dans les chroniques, comme nous le verrons demain matin, il n'est pas question du péché de Salomon. Alors on verra pourquoi. Parce qu'il y a plus que Salomon dans cette vie. Qui est-ce qu'il y a? Jésus. Nous arrêtons ici. Demain, nous prendrons encore un péché de David, qui est encore le plus grand et qui a pourtant été pardonné pour que tous ici, qui que nous soyons, quelles que soient nos fautes, nous sachions que Dieu peut nous transformer, nous pardonner. Dieu notre Père, Nous voulons te demander simplement que nous puissions relire ces textes, nous en imprégner et nous souvenir que c'est ta parole qui nous révèle tout cela et que si cela nous est présenté, c'est pour que nous n'ayons plus d'illusions sur nous-mêmes. Nous sommes tous capables de tomber. Nous sommes tous capables de nous laisser influencer, si ce n'est dans nos actions, dans nos pensées. Alors nous te demandons de prendre en main ce camp et de nous parler durant l'éveil de cette nuit pour ta seule gloire. En Jésus-Christ. Amen.